Je vous invite à poursuivre avec moi dans le livre d'Ésaïe, ce livre que j'ai entamé avec vous dimanche passé pour une première prédication sur un de ces cantiques, c'était au chapitre 49. Là où Dieu, à travers Ésaïe, appelle le peuple à se souvenir de son amour pour eux. Aujourd'hui, nous allons regarder un autre de ces cantiques dans le chapitre 50. Et l'intérêt, évidemment, de ces réflexions, c'est de fournir de la matière pour renouveler notre compréhension de Jésus et de son œuvre que nous avons célébrée à Pâques. Les premiers chrétiens et les premiers théologiens aussi ont vu dans Jésus l'accomplissement justement de ces prophéties d'Ésaïe. Et tout le jeu consiste à essayer de relire la vie de Jésus à l'aune de ce qu'Ésaïe proclame dans son texte plusieurs centaines avant que le Messie arrive vraiment, et puis de voir évidemment comment cela s'applique pour nous, quelque près de 3000 années plus tard. Alors je vous invite à écouter les versets 4 à 11 du chapitre 50 d'Ésaïe. Ce passage est dit être le troisième chant sur le Messie, qu'on appelle aussi ce Messie le serviteur souffrant. Donc we will be reading in Isaiah 50, verses 4 to 11, and we will be looking at what the Messiah brings and his qualities that we can apply for us today. Alors j'invite mes deux lecteurs à venir ici devant pour lire.
Alors Ésaïe 50, 4 à 11. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière.
J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Mais le Seigneur, l'Éternel, m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu.
Celui qui me justifie est proche. Qui disputera contre moi? Comparaissons ensemble. Qui est mon adversaire? Qu'il s'avance vers moi. Voici le Seigneur, l'Éternel, me secourra. Qui me condamnera? Voici, ils tomberont tous en lambeaux comme un vêtement. La teigne les dévorera.
Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Quant à vous qui allumez du feu et qui êtes armés de torches, allez au milieu de votre feu et de vos torches enflammées. C'est le sort que le Seigneur vous réserve. Vous mourrez dans les tourments.
Merci pour cette lecture et je vous invite à prier. Priez-nous que ces paroles prennent vie dans nos vies. Nous prions. Oui Seigneur, quelle bénédiction de pouvoir lire ta parole, de l'avoir là à notre disposition et qu'à travers elle, nous pouvons mieux te connaître. Alors que ton esprit ouvre nos cœurs en ces instants, que ta parole éclaire nos vies, et qu'elle nous aide à changer pour te ressembler. Car nous savons et nous croyons que ta parole est la vérité et qu'elle est digne de confiance. Amen. Alors vous l'aurez probablement remarqué, mais comparé au cantique sur lequel nous avons médité dimanche dernier, bien ici il n'y a pas vraiment d'image forte ni de grande envolée lyrique. Alors qu'est-ce qu'Ésaïe est en train de nous dire dans ce passage ? Eh bien, dans ce passage, le prophète Ésaïe nous parle du Messie à venir. Nous le savons. Et nous savons aussi que c'est Jésus-Christ comme le Nouveau Testament nous l'a bien indiqué, même si son nom tel quel n'est pas mentionné. Et Ésaïe, à travers de ces paroles prophétiques que Dieu lui donne de dire, présente le Messie à venir comme un disciple fidèle, fidèle au Seigneur, dont il ne cesse d'écouter la parole. Et plus précisément, Ésaïe est en train de se concentrer sur les qualités que le Messie, ce serviteur souffrant, possède. Et quelque part, on pourrait dire qu'il veut nous entraîner au-delà de la surface des choses pour nous aider à nous poser la question de la motivation profonde de ce Messie. Qu'est-ce qui agit au profond de lui comme un ressort dans sa vie pour lui permettre de faire ce qu'il a fait ? Alors pour saisir la saveur de ce texte, on procède un peu, on pourrait dire, comme un tableau ce matin. On regarde les détails pour ensuite voir l'ensemble. Et on va diviser ce texte en trois aspects et les regarder l'un après l'autre, en commençant par les détails pour mieux voir l'ensemble. D'abord, quelles sont ces qualités du Messie dont il est question, dont parle Ésaïe, et on va en regarder deux précises. D'où proviennent-elles et en quoi sont-elles applicables à nous? Alors, quelles sont ces qualités du Messie? Verset 4 commence en disant « Le Seigneur m'a donné une langue exercée ou une langue attentive pour que par ma parole, je sache fortifier ceux qui sont fatigués ou ceux qui sont abattus. » Voilà ce que fait le Messie. Alors, quel type de personne est donc ce Messie, ce Jésus? Eh bien, par ces paroles qui sont dites là, on va se dire que c'est un type qui fait du bien quand vous le croisez. On perçoit en lui un amour, une compréhension, une grande compassion. Et on se sent libre à se confier en lui. On est attiré par cette personne. Et je pense que dans la vie de tous les jours, vous devez connaître une telle personne. Elle est encourageante. Vous pouvez vous appuyer sur sa sagesse pour votre vie. Elle fait du bien quand on est au fond du trou. Quand on se sent brisé et fatigué, elle peut vous redonner de la force. Eh bien, voilà la principale qualité d'un serviteur du Seigneur. Oui, plein de compassion, pourrait-on dire, plein de compassion. Mais ce n'est pas tout, parce que le verset 5 continue et nous dit « Non, je n'ai pas résisté, j'ai pas reculé, j'ai pas été en arrière, mais j'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient. J'ai tendu mes joues à ceux qui essayaient de m'arracher la barbe. Je n'ai pas caché mon visage à ceux qui m'insultaient, qui crachaient sur moi-même. Mais l'Éternel m'a secouru. Je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu, car il est tout proche celui qui me rendra justice. » Et de quoi parlent exactement ces versets? On pourrait dire d'une force, de la force qu'a ce Messie au sein de l'adversité, au sein de la difficulté, une capacité à tenir bon, à tenir ferme. Il s'en dégage, une impression, on pourrait dire, de force absolue. Et pourquoi a-t-il cette force? Eh bien, il le dit lui-même, car Dieu est à ses côtés. Il est totalement ancré en lui, rien du coup, ne peut l'atteindre, ni le décourager, ni le défaire. Dieu est au cœur de son identité, et c'est tout ce qui compte. Et donc, en lui, il est fort. La compassion et la force, voilà notamment deux qualités qui sont vraiment importantes à avoir dans la vie. Et c'est vrai que souvent, nous avons tendance à avoir l'un ou l'autre. Hein. On est des gens compatissants, mais peut-être pas très forts, ou des gens très forts, mais malheureusement pas très compatissant. Mais le Messie, notre Messie, a les deux. Alors d'où proviennent-elles? C'est ici où le texte devient, on pourrait dire, intéressant. C'est l'explication, la clé de ce qu'il y a sous la surface. Et c'était assez inattendu quand on y pense. Le texte continue, il dit, mais il m'éveille, il me fait tendre l'oreille matin après matin, afin que j'écoute comme un disciple, comme font tous les disciples. Voyez, le secret de ce Messie, de ce serviteur souffrant, c'est d'abord sa capacité à se mettre à l'écoute de Dieu. Sa capacité à se mettre à l'écoute de Dieu. Pas d'abord aux autres, ça c'est le fruit, la conséquence de son écoute à Dieu, mais à l'écoute de Dieu au travers de sa parole. Il écoute comme un disciple. Pas juste comme un serviteur qui apprend pour obéir à la lettre, mais il entend les paroles du maître pour s'approprier ces paroles et maîtriser la connaissance que le maître possède pour connaître, savoir et le vivre. Autrement dit, ce qui caractérise le Messie, c'est qu'il est versé dans les Écritures. Et c'est particulièrement ce qu'ont vu les premiers théologiens en regardant la vie de Jésus. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous êtes jamais posé la question du lien entre Jésus et les Écritures. Et on rentre là dans quelque chose d'exceptionnel. Parce que la parole l'accompagne partout. Jésus est constamment en train de la citer. Quelques exemples. Déjà à 11 ans, les docteurs de la loi qu'il rencontre dans le temple sont absolument étonnés par ses connaissances bibliques. Il peut aussi baser son enseignement juste sur un petit mot. Et il montre ainsi sa connaissance de la Bible jusque dans les détails. Et tous ces miracles marquent tout autant sa connaissance de l'Écriture. C'est toujours en lien avec sa parole, la parole. C'est d'ailleurs la caractéristique même des miracles, toujours en lien avec la parole de Dieu. Et Jésus dit lui-même en Matthieu 5, « Car je vous le dis en vérité, jusqu'à ce que passe le ciel et la terre, pas un seul iota de la loi, ni un seul trait de lettre ne disparaîtra, afin que tout soit accompli. » Autrement dit, Jésus nous l'assure, tant que le ciel et la terre resteront en place, ni la plus petite lettre de la loi, ni même un point sur un i n'en sera supprimé jusqu'à ce que tout se réalise. C'est-à-dire que tout ce que Dieu a prévu sera accompli jusqu'au moindre détail. Jésus reconnaît la parole de Dieu dans les Écritures parce qu'il est un disciple de Dieu. C'est d'ailleurs de son attitude qu'on tire la doctrine de l'infaillibilité de la Bible, du fait que la Bible n'a pas de faille, qu'on peut s'y fier. Jésus s'y fiait totalement. Il la citait constamment. Mais on peut aller aussi plus loin avec cette attitude de Jésus au travers de ce qu'il nous dit ici Isaïe. Au verset 10, il dit « Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. » Une autre traduction nous dit « Si quelqu'un parmi vous reconnaît l'autorité du Seigneur, qu'il écoute son serviteur. » Et ce que nous réalisons avec Jésus et comment il a vécu sa vie, c'est que non seulement Jésus écoute Dieu, et sa parole, qu'elle est au centre de sa vie, mais il se soumet à elle. Il soumet l'ensemble de sa vie à Dieu et à la parole de Dieu. Et il invite chaque disciple à faire de même, nous l'indique Isaïe. Et on le voit, le plus émouvant, c'est sur la croix. Quand on est en agonie, à la fin, qu'on ne peut plus agir, qu'on ne peut même plus agir, réagir, on pourrait dire, qu'est-ce que fait Jésus, lui, sur la croix? Que dit-il? Eh bien, il parle à son Dieu et il cite la parole de Dieu, le psaume 22. « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Voyez, la chose qui le pousse, qui le tient, qui guide son imagination, qui le retient, qu'il mémorise et utilise, ce sont les principes de l'Écriture, ce que Dieu a dit au travers d'elle. Et qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, c'est là le secret de sa puissance. C'est ce qui lui permet de conjuguer sa vie de compassion et de force. C'est dans la parole de Dieu qu'il la puise. Et il y a une première application ici pour nous. Un auteur a fait remarquer « Jésus n'a jamais affronté la souffrance sans l'Écriture. » Alors si lui ne pouvait pas traverser sa vie sans la parole de Dieu, alors à plus forte raison cela doit être présent dans notre vie aussi. Il nous faut connaître cette parole jusqu'à ce que cela fasse une vraie différence dans votre vie. Il nous faut réaliser à quel point cela est au cœur de notre spiritualité. Et c'est pourquoi nous insistons tellement dans nos églises sur ce temps de la prédication, là maintenant, ou les études bibliques, ou les moments spirituels, pour les petits, les jeunes, comme pour les grands, les adultes. C'est pourquoi on redit l'importance, eh oui, de lire sa Bible chaque jour et de la méditer. Nous sommes des gens qui sommes et qui voulons être ancrés dans l'Écriture. Et vous voyez la question qui se pose à la suite de cette première application, c'est de se demander, sommes-nous de ces disciples qui lisons notre Bible régulièrement? Vous voyez, cela m'a tellement perturbée de réaliser tout cela sur Jésus, ce qu'il dit ici aussi en Ésaïe, que outre mes lectures ordinaires, comme pour le ministère, j'ai décidé, oui, encore, de relire ma Bible en entier, pour la connaître, pour qu'elle pénètre mon âme. Et c'est un défi que je vous lance à vous aussi, ce matin. Relisons encore et toujours notre Bible. Et il y a malheureusement parfois un certain relativisme dans l'Église chrétienne à ce propos, et même certaines approches spirituelles qui se passent de la constante référence aux Écritures, ou qui mettent aucun accent dessus. Et même dans l'œcuménisme, même si on a en commun cette parole de Dieu, eh bien le grand danger est de la négliger. Il y a cette première application pour nous, que cette parole soit présente dans nos vies, mais il y a aussi cette seconde application pour nous. Car au-delà de vouloir être ancré dans cette parole, de la lire, de s'imprégner de ses principes, il faut faire ce pas de plus que fait Jésus, laisser la Bible placer son autorité sur nous, sur soi. On entend souvent dire « Ah oui, j'aime la Bible, mais bon, je ne vois pas trop l'intérêt tous les jours de suivre ce qu'elle me dit de vivre. » Ou alors, oui, je crois en ses promesses, et d'ailleurs, je veux ses bienfaits. Mais quand même, j'ai quand même le droit de garder ma distance quand j'en ai envie, quand je sens que c'est nécessaire. Voyez, la parole de Dieu est vivante. Elle travaille nos cœurs. Elle nous guide, nous révèle qui est Dieu et comment il agit. C'est apprendre tel quel. C'est un tout à conjuguer dans sa vie. C'est le principe de vie et de force. Et si nous voulons vraiment marcher à la suite de notre Seigneur Jésus, il nous faut puiser sans se lasser à la source de la parole et lui laisser autorité sur nous. Cette autorité de la parole se trouve d'ailleurs au centre de l'Évangile. Mais évidemment, on ne peut conclure ce texte sans avoir évoqué les autres versets où il est question de toute cette violence et souffrance. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, j'ai tendu mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe, j'ai pas caché mon visage à ceux qui m'insultaient, qui crachaient sur moi. On peut se demander quel est le lien entre ce que nous venons de dire, où je parle de force, d'autorité, et l'image de ce Messie qui souffre et qui est abusé par les hommes. Alors qu'est-ce qu'Ésaïe cherche à nous faire comprendre? Eh bien, cet Ésaïe a reçu de la part de Dieu une révélation. Que le Messie ne sera pas du tout comme on l'aurait imaginé. Non, il ne sera pas un roi puissant qui chamboulera toute la terre par sa puissante armée. Et non, mais il sera un homme accessible, que l'on fera souffrir, à qui même on fera souffrir le martyr. Et le lien est là. Si le Messie, pardon, a pu affronter tout cela, c'est qu'il avait confiance en Dieu et confiance en ce que disaient les Écritures, dans les promesses de l'Écriture, qui parlent justement que tout sera accompli, mais d'un amour constant de Dieu, qu'il sera là et qu'il délivrera. Et en relisant ce texte d'Ésaïe, en l'appliquant à Jésus, on comprend à quel point les Écritures ont fait une différence dans la vie de Jésus, lui permettant justement d'affronter toute cette souffrance, tout en gardant une clairvoyance sur les enjeux de sa mission, de ce qu'il devait accomplir. Il y a qu'en étant versé dans les Écritures que Jésus, ce Messie, pouvait faire ce qu'il a fait pour nous. Il avait une telle connaissance de la parole qu'on pourrait dire qu'elle le portait à travers les épreuves et le guidait dans tous ses agissements. Et une bonne illustration de tout ceci est le récit sur le chemin d'Emmaüs. Vous connaissez l'histoire, cela se passe après la mort et la résurrection de Jésus, deux disciples qui marchent sur le chemin dans le désarroi total, parce que pour eux, Jésus est mort, et pourtant Jésus leur apparaît. Il fait un bout de chemin avec eux, sans qu'ils le reconnaissent de suite. Et qu'est-ce qu'il fait? Il leur fait découvrir quoi? Eh bien les Écritures qui parlent justement du Messie. Et d'ailleurs, il a fort à parier qu'il mentionne notamment Ésaïe, et qui parle de ce serviteur qui devait souffrir. Il leur ouvre les oreilles et les yeux pour qu'ils comprennent enfin ces Écritures. Et que découvre-t-il? Que Dieu peut se servir de la souffrance, des épreuves, même de la mort, pour l'avancement de son règne. Que l'histoire de Jésus en est le témoin. Au travers des Écritures et de l'œuvre de Jésus, ils ont accès pour la première fois, eux, au plan de Dieu pour le salut des hommes. Cela les a bouleversés, mais aussi permis de se relever, d'être fort justement, et d'aller annoncer cette bonne nouvelle. Et cela ne peut que nous aider, nous aujourd'hui, dans le vécu de nos vies. Et c'est d'ailleurs une troisième application pratique de tout ceci pour nous. Il faut que nous arrivions à faire rimer dans nos vies ce que nous savons des Écritures, notre contemplation du Christ, et ce que nous vivons au quotidien. Que la parole de Dieu soit vivante, qu'elle soit réelle, qu'elle soit concrète dans nos vies. Et c'est d'ailleurs l'application pratique pour nous, que sa parole soit vivante pour nous. Alors avons-nous besoin de relire les précieuses promesses de la Bible pour nous redonner courage? J'espère que oui. Un récent sondage montrait que seuls 17% des protestants réformés lisent leur Bible une fois par semaine, contre 74% des évangéliques. Alors espérons que dans ce domaine, nous sommes du côté évangélique. Avez-vous besoin de contempler comme à nouveau Jésus? Non seulement l'homme exemplaire, mais l'homme qui va donner sa vie par obéissance, parce qu'il a compris profondément le sens du plan de Dieu pour lui, à travers des Écritures. Alors vous aussi, prenez le temps d'y réfléchir, de méditer cela. Dieu aussi a un plan pour votre vie. Pensez-vous que Dieu vous a abandonné ou oublié? C'est la question que nous nous sommes posées dimanche dernier avec Ésaïe 49, et nous avons vu que Dieu nous aime bien plus qu'une mère, que nos noms sont gravés dans ses mains, qu'il n'a pas abandonné Jésus et qu'il ne nous abandonnera pas non plus. Ou peut-être avez-vous besoin de renouveler votre compréhension de comment Dieu agit? Alors prenez le temps de dire et redire encore et toujours à votre cœur qu'il est souverain, qu'il contrôle tout, qu'il est présent au cœur même de votre souffrance, de ces épreuves que vous traversez jour après jour, de ces circonstances, qu'il est là avec vous. Tout l'évangile est là pour vous dire, pour nous dire, nous affirmer, nous consoler avec cette promesse qui revient encore et toujours. N'aie pas peur, aie confiance, je suis là. Alors que la lecture et la méditation de sa parole avec toute l'œuvre de Christ, que nous voyons déjà avec Ésaïe, soit au cœur de nos vies, que nous puissions être cet homme, cette femme, cet enfant, ce jeune qui est heureux, car il trouve son bonheur dans la parole de Dieu qu'il médite jour et nuit, et qu'ainsi Dieu soit glorifié dans nos vies, dès maintenant et pour toujours. Amen.